Le journal de la rédaction, Théo Guiton, Valentin Monnier.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence 6 et à la une de votre journal, le variant du Covid-19 Omicron découvert en Afrique du Sud inquiète. L'Organisation mondiale de la santé, elle le qualifie de risque très élevé. En Europe, ce variant circule déjà dans plusieurs pays voisins du nôtre et dans le nôtre aussi. On fait un point au début de ce journal. La ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, sera au Mans demain pour évoquer la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+. L'invité de ce journal sera Dominique Dumeau, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe et maire de Fercé-sur-Sarthe. Il évoquera avec nous la problématique des déserts médicaux. Une chronique culture aussi à la fin de ce journal avec bien sûr des idées de sortie et une chronique Noël avec un marché de l'Avent organisé à Sablé-sur-Sarthe. On vous détaille tout à la fin de ce journal. Et on commence donc ce journal par ce nouveau variant du Covid-19 qui inquiète. Baptisé Omicron, il a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud. Il se propage dans plusieurs pays du monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a qualifié ce risque de très élevé. En Europe, des premiers cas ont été détectés. C'est le cas aux Pays-Bas, où les autorités sanitaires ont annoncé que 13 passagers arrivés d'Afrique du Sud vendredi à Amsterdam étaient porteurs du variant. Deux cas ont été signalés au Danemark, qui venaient là aussi d'Afrique du Sud. Trois cas ont été confirmés en Allemagne. Le Royaume-Uni a aussi annoncé ce dimanche un troisième cas venu d'Afrique australe. En France, le ministre de la Santé a indiqué dans un communiqué que, je cite, 8 cas possibles ont été repérés sur le territoire national. Le test de ces patients vont être séquencés afin de découvrir s'ils sont réellement porteurs de ce variant. Et face à ce nouveau variant, justement, la France a pris des mesures en suspendant les vols en provenance de 7 pays d'Afrique australe, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Eswatini, Lesotho, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe.
Et toujours concernant l'actualité sanitaire, le protocole dans les écoles change.
Et oui, auparavant, dans les écoles primaires, dès qu'un cas de Covid était avéré, la classe était fermée, ce qui fait que la semaine dernière, près de 9000 classes étaient fermées. Ce protocole change. Jean-Michel Blanquer en a détaillé le changement. Dorénavant, dès qu'un cas de Covid est détecté, tous les élèves sont testés et seuls les élèves positifs rentrent chez eux.
Et en politique maintenant, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, était au Mans ce matin, Valentin.
Effectivement, elle s'est rendue vers 10h au centre de l'Arche de Saint-Saturnin. C'est près du Mans, sur place, 250 patients y sont accueillis chaque jour. Elle a rencontré l'équipe locale d'accompagnement sur les aides techniques. Sur place, une équipe donc a été mise en place dans le cadre de l'expérimentation nationale lancée cet été par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle a ensuite poursuivi sa visite en se rendant dans un ensemble locatif avec 9 logements adaptés aux personnes en situation de handicap et 4 logements de transition pour les personnes dans l'attente d'une solution durable.
Et une autre visite ministérielle, mais cette fois-ci, elle est demain, Valentin.
Et oui, c'est la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, donc, qui sera présente demain. Elle évoquera la lutte contre les discriminations LGBT+. Elisabeth Moreno ira ensuite dans la matinée à l'association Dites Je suis là, c'est une plateforme de prévention du suicide. Puis elle se rendra au centre LGBTI+, de l'association Homogène et enfin au planning familial. Et on reste dans le domaine de la santé, mais on revient en Sarthe pour notre invité du jour.
L'invité du jour.
Et notre invité du jour est le président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe et maire de Fercé-sur-Sarthe, Dominique Dumeau. La semaine dernière, l'association a publié un communiqué alertant sur la désertification médicale en Sarthe et plus précisément sur les territoires ruraux. Et justement, les urgences de Saint-Calais étaient fermées ce week-end comme beaucoup d'autres avant elles. On connaît également le terrible incident, qui n'était pas vraiment un incident d'ailleurs, à l'hôpital du Bailleul, faute d'anesthésiste. Monsieur Dumeau, bonjour.
Bonjour.
Alors comment vous réagissez justement à la fermeture des urgences de Saint-Calais, ce qui s'est passé aussi à l'hôpital du Bailleul?
Écoutez, on est en train de vivre là les effets collatéraux de cette désertification médicale que nous subissons maintenant dans le département depuis plus de 10 ans. Qu'on disait dans le communiqué, hein, notre Assemblée générale des maires ruraux de 2012 était déjà sur le sujet de l'accès aux soins, où on alertait l'ensemble des pouvoirs publics sur la difficulté qu'avaient les habitants de nos communes à trouver un médecin traitant ou un spécialiste pour consulter. Et on sait qu'aujourd'hui, le fait que nous ayons 40 urgentistes, médecins urgentistes en moins dans le département par rapport aux chiffres qui nous permettraient d'avoir un fonctionnement adéquat, fait que les raisons sont souvent évoquées, qui sont souvent évoquées, c'est la désertification médicale et la difficulté qu'ont les urgentistes à effectuer d'une manière convenable leur travail, alors que souvent ils se retrouvent à accueillir des gens qui n'ont plus de médecin traitant aux urgences, ils ne font plus leur métier. Ça engorge totalement les services d'urgence du département et donc ça rend le métier d'urgentiste en Sarthe, mais pas qu'en Sarthe, hélas, en Eure-et-Loir, en Mayenne ou dans la Nièvre, c'est la même chose, très difficile. Et on se retrouve avec des services d'urgence qui ferment les uns derrière les autres parce qu'on n'a plus de médecins urgentistes en capacité de les faire fonctionner. Et donc c'est très amer, c'est vraiment regrettable et c'était un peu agaçant de voir que les pouvoirs publics n'ont pas encore été capables, en 10 ans, de réagir à cette difficulté.
Alors justement, comment on peut expliquer ce manque de médecins urgentistes? On n'est quand même pas un pays du tiers-monde, on est un pays, on est la 6e puissance mondiale, on est en pleine pandémie, et on entend, comme vous le disiez d'ailleurs, que des services d'urgence ferment, que des lits ont été supprimés encore l'année passée par d'autres gouvernements également, dont certains d'ailleurs font en ce moment même la leçon parce qu'ils sont candidats à l'élection présidentielle. Comment on peut expliquer ça? Comment on en est arrivé là, dans un pays comme le nôtre?
Alors, le drame, c'est que ça a d'abord touché, dans 2010, les départements les plus ruraux. Et on sait qu'en termes de politique publique, la France n'a jamais été la grande championne pour accompagner l'ensemble de ses territoires d'une manière égalitaire. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour que les pouvoirs publics se rendent compte que cette désertification médicale avait un impact très important sur l'équilibre de notre société, tout simplement. Et n'oublions pas que la santé est un des pouvoirs régaliens de l'État. Et puis de voir aussi qu'aujourd'hui, des départements comme la Vendée ou la Loire-Atlantique, la bande littorale, qui étaient des lieux très attractifs, commencent à souffrir et à manquer de médecins généralistes. Et que la difficulté que nous avons connue, nous, il y a 7-8 ans, est en train d'arriver dans quasiment tous les départements de France, mais que ce soit en milieu rural comme en ville, que ce soit en banlieue comme dans certains arrondissements parisiens, fait que les pouvoirs publics n'ont pas d'autre choix que de s'emparer du sujet, mais hélas, trop tard, parce que pour former un médecin, il faut de nombreuses années. Et que sur les 8 prochaines années, on va devoir apprendre à gérer la catastrophe qui s'annonce et qu'on arrive au bout du bout avec évidemment des médecins urgentistes qui manquent parce qu'il manque des spécialistes. Les spécialités sont en carence un peu partout. Donc les urgentistes en souffrent de la même manière. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que les urgentistes ne vont plus dans les départements où il y a une forte tension en accès aux soins parce que leur métier ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont, à leur cursus de formation. Et donc, ils sont plutôt attirés dans les départements où ils vont réaliser leur travail d'urgentiste, dans un département un peu moins touché par la désertification médicale. Et donc, on est en carence et il nous manque 40 postes non pourvus dans le département à cause de ça.
Alors aujourd'hui, concrètement, là, donc, vous l'avez dit, hein, il faut plusieurs années pour que ce soit réparé, entre guillemets, avoir un retour à la normalité, entre guillemets. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en urgence?
Alors là, il y a quelques pistes. Hein. Alors le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de s'emparer du sujet. Je rappelle quand même, parce qu'on l'oublie, que dans les cahiers de doléances qui avaient été ouverts dans les mairies pendant la crise des Gilets jaunes, l'accès aux soins était dans les 5 ou 6 critères qui arrivaient en début, comme l'éducation, comme la sécurité. Donc voilà, c'était un sujet déjà exprimé dans les cahiers de doléances début 2019, juste après la crise des Gilets jaunes. Alors, le gouvernement a pris conscience de ça, mais hélas, trop tard, et les gouvernements précédents n'ont rien fait, ou ont fait des choix qui ont aggravé la situation. Donc aujourd'hui, on a les infirmières de pratique avancée, qui est quelque chose qui commence à se mettre en place. La formation a maintenant 2 ans de mémoire et aujourd'hui on a les premiers infirmiers de pratique avancée qui s'installent, qui peuvent résorber la crise. On a la téléconsultation, qui est évidemment un sujet aussi pour permettre à un médecin, car on parle aujourd'hui de temps médical, à un médecin de pouvoir répondre à quelques sollicitations supplémentaires sur son temps de travail. Il y a aussi l'accompagnement des médecins généralistes avec des professionnels de santé en amont pour que le temps médical, que le médecin puisse mettre tout son temps et toute son énergie sur la partie questions, palpations, rencontres en présentiel avec le patient et que toute la partie administrative ou les pré-contrôles puissent être faits par des professionnels en amont. Donc ça, c'est des pistes. Hein. Et, permettre aussi aux infirmiers, aux kinés, aux pharmaciens d'avoir des actes aujourd'hui dont ils n'ont pas le droit de le faire parce qu'il faut un médecin prescripteur. Demain, rendre possible ces actes-là. Mais malgré tout, quand on met toutes ces petites options bout à bout, ça ne réglera jamais le problème. Et de toute façon, la situation sera de pire en pire pour les 8 prochaines années.
Est-ce que, par exemple, une des solutions qui sont notamment évoquées par certains candidats à l'élection présidentielle, on pense par exemple à Valérie Pécresse qui était venue à Fresnay-sur-Sarthe et qui proposait d'inciter les médecins, alors inciter financièrement à venir dans des territoires ruraux. Allons un peu plus loin. Leur formation est publique. Ils sont donc payés par, en partie en tout cas par les impôts des Français. Ne doit-on pas finalement les obliger, comme ça se fait par exemple pour les professeurs qui sont mutés dans des lieux qu'ils ne choisissent pas, en tout cas en début de carrière, ne doit-on pas obliger les médecins à venir en campagne et pas uniquement à aller en ville? Est-ce que vous, alors je sais que vous n'avez pas le pouvoir de le décider évidemment, mais est-ce que ça vous paraît être une option possible?
Alors ça en aurait été une il y a quelques années. Parce que il était encore temps d'agir. Aujourd'hui, on peut se faire plaisir. Mmh. On peut se faire plaisir en faisant ça, mais ça rendra service à quelques territoires qui sont encore en limite et qui pourraient peut-être, grâce à cette action, avoir un médecin qui s'installe alors qu'il n'aurait pas eu précédemment. Mais il faut quand même pas oublier une chose, c'est que un jeune qui se lance dans des études de médecine pendant ses 9 années de formation, il va être complètement essoré, utilisé,
bien sûr.
Exploité par un système qui ne fonctionne que grâce à lui. N'oublions pas qu'un interne de première année d'internat fait jusqu'à 60 à 70 heures par semaine, payé 1200 euros par mois. Donc on sait aussi que ces jeunes, à la fin de leurs études, ils s'estiment redevables de rien. Mmh. Parce qu'en fait, ils ont été exploités pendant 10 ans, corvéables à merci, et qui partent du principe qu'ils ont payé. Parce que les hôpitaux aujourd'hui, on enlève les internes, les externes et les élèves infirmiers dans les centres hospitaliers universitaires, ils s'effondrent sur eux-mêmes. Pourquoi pas rendre possible et imposer l'installation, mais en parallèle, il faut réformer l'ensemble du processus de formation pour que les jeunes, à la fin, s'estiment redevables de la société.
D'accord.
Et ça, aujourd'hui, personne n'a fait cet effort.
Ok, très bien.
Eh ben, on vous remercie, en tout cas, Dominique Dumeau, d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous.
Et voilà, c'était donc Dominique Dumeau qui est le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe et il est maire de Fersé-sur-Sarthe. Prudence sur les routes, plusieurs accidents se sont produits ce matin au Mans avec des deux roues, des vélos, en cause les routes qui étaient verglacées donc ce matin puisqu'il a neigé cette nuit. Demain matin les températures devraient remonter, il ne devrait pas y avoir de gelée de prévu, mais restez quand même très prudents.
Et on parle immigration maintenant, un avion pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est en tout cas une solution que proposent les institutions européennes dès le 1er décembre à Calais. Un avion européen Frontex, c'est le nom du programme de protection des frontières européens, survolera le tunnel sous la Manche en continu. Objectif, récupérer les passeurs. Une décision qui fait suite aux 27 morts en tentant de rallier l'Angleterre la semaine dernière.
On change de sujet juste avant la chronique culture de Lilian. On va parler nous aussi de culture. Demain, la célèbre chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante franco-américaine Josephine Baker va faire son entrée au Panthéon. Donc demain, la cérémonie est à suivre à partir de 17h30. Et en Sarthe, le manceau Froufrou, de son vrai nom Christian Frou, hein, donne une conférence où il évoquera son enfance, de l'esclavage, de sa mère et de sa fin de vie dans la misère. C'est à la galerie Armand. Et c'est aux 3 rue Saint-Honoré au Mans et c'est à partir de 19h.
Et on parle culture avec toi maintenant Lilian.
Et oui en effet, on commence cette chronique culture à Sargé-l'Aile-le-Mans avec un peu de théâtre. Dans le cadre du Téléthon qui aura lieu en fin de semaine, l'établissement d'enseignement artistique de Sargé vous propose une pièce à mi-chemin entre théâtre et comédie musicale présentée par les Imaginaires, un chœur d'adultes et leur pièce s'appelle Dancing. Ils la joueront vendredi 3 et samedi 4 décembre à 20h30 à la salle Célia. L'entrée est gratuite mais le but étant tout de même de récolter des fonds pour le Téléthon. Vous êtes donc invité à donner le montant de votre choix à l'entrée.
Et la culture continue au Mans.
En effet, Théo. Et plus précisément, rue Nationale au Mans. En revanche, je vais plutôt vous parler d'un chantier en cours lié à la culture. C'est donc à la place de la bagagerie maroquinerie Peau d'Or qu'un projet de comédie club verra le jour et ce en mars 2022. Ce lieu s'appellera Comédie Le Mans et aura pour vocation d'accueillir des reprises de pièces de théâtre connues ou justement des humoristes.
Allez, on parle Noël. Petit jingle.
Allez, on parle Noël. Let's go.
Ah, ça m'avait manqué ça.
Et oui, on part maintenant à Sablé-sur-Sarthe, donc je pourrais vous parler de marché Noël, mais non, puisqu'à Sablé, cette année, c'est un marché de l'Avent qui vous est proposé, et la nuance est importante car le concept n'est pas le même. Au lieu de petits chalets, Sablé vous donne l'occasion d'assister à de nombreuses animations disséminées dans le centre-ville du 3 au 5 décembre, ce week-end donc. Et on commence place Raphaël Élysée, et oui, vendredi à 17h30 seront distribués des lampions pour la mise en lumière de la ville. D'ailleurs, c'est sur cette place que le village Téléthon s'installera et que le marché traditionnel aura lieu, sachant que de base il est place de la République. Il y aura aussi une patinoire éphémère place du Champ de Foire. Les horaires sont les suivants: le vendredi de 17h à 21h, samedi de 10h à 21h et enfin dimanche de 10h à 18h. L'entrée est de 3€ par adulte, 2€ par enfant et 1€ sera reversé sur chaque place au Téléthon. Sur cette même place, donc la place au Champ de Foire, ce samedi aussi ainsi que dimanche sera organisé par le conseil municipal des jeunes une collecte de jouets et de livres en bon état qui seront redistribués à des enfants privés de cadeaux. Les horaires sont 14h-18h le vendredi et 14h-19h le samedi. On change de place maintenant puisqu'on va sur la place de la République, toujours à Sablé, puisque le marché traditionnel n'aura lieu ni samedi ni lundi sur cette place et pour cause, une quarantaine d'exposants dont 8 associations saboliennes vont occuper les lieux. Décorations, bijoux, cadeaux, peintures, savons, chocolat, etc. seront proposés à la vente. Le Père Noël fera même une apparition en compagnie de ses chiens de traîneau. Il arrivera le samedi à 15h. Allons maintenant sur le port de Sablé pour un petit spectacle nocturne de 20 minutes jouant entre l'eau, le son et des jeux de lumière. Ce sera le samedi à 19h. Et enfin pour finir, le dimanche à 16h à l'église Notre-Dame vous sera proposé un concert d'orgue de Barbarie et d'orgue de Tribune.
Super, merci. Vas-y, un peu de musique.
Allez, let's go.
Ah ouais, ça c'est Noël.
Ah, on l'aime notre Maria quand même, hein.
On l'aime. Bah merci beaucoup Lilian.
Mais y a pas de quoi.
On va changer un peu de sujet et on va parler cette fois-ci de sport puisqu'une dernière information nous est parvenue. L'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar sera indisponible entre 6 et 8 semaines. Il souffre d'une entorse à la cheville gauche, c'est le club qui nous l'a annoncé et il s'était blessé, souvenez-vous, hier face à Saint-Étienne. Voilà pour ce journal. On revoulait en compagnie de Lilian.